France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Sur les réseaux sociaux, les deepfakes pullulent. Comment ces vidéos, images ou contenus audio plus vrais que nature, générés par deep learning, sont-ils fabriqués et comment lutter contre leur prolifération ? Depuis l'apparition du TAM en 2017, les deepfakes se multiplient. En 2025, une nouvelle étape a été franchie. Pour construire du faux ultra réaliste, pas besoin d'une grande quantité de données. Un simple échantillon de voix suffit désormais. De plus, le deepfake en temps réel se développe. Usurpation d'identité, campagne de désinformation. Les images sont factices, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. L'autre défi, c'est ce cercle vicieux. Plus on développe des outils de détection, plus les deepfakes, eux, se perfectionnent. Deepfake, l'IA, met de l'huile sur le faux. Patrick Bas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille. Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences à Avenir et auteur du livre Deepfake, l'IA au service du faux, aux éditions Erol. Et nous sommes en ligne avec Tina Nikuka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'équipe de recherche de la start-up GetReal Labs, une start-up qui lutte contre la propagation des deepfakes. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et nous vous invitons également à nous rejoindre sur Blue Sky où toute la communauté scientifique a migré. Tous les jours, nous publions pour vous. Toutes nos sources, c'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment ont évolué les méthodes et la qualité de ces deepfakes ? Comment les détecter et comment s'en protéger ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec un montage d'archives et une sélection de deepfakes.
Avez-vous déjà entendu parler des fake news, des informations bidons qui circulent sur les réseaux sociaux? Eh bien, voici leur version vidéo. On les appelle les deep fakes. Alors, dites-nous d'abord un peu plus en détail, c'est quoi exactement un deep fake?
Eh bien, pour bien comprendre, regardez attentivement cette vidéo.
Bonjour la France. J'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui en français pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle en France en 2022. Ensemble, we will make France great again.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit.
L'idée, c'est de faire dire à des personnalités importantes des choses qu'elles n'auraient jamais prononcées. La dernière en date concerne Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Elle a été postée sur Instagram, réseau social qui lui appartient.
Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data. I wish I could keep telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. The more you express yourself, the more we own you.
Voilà, on entendait le canular de Jordan Peele qui faisait dire à Barack Obama que Donald Trump est un idiot. Olivier Lascar, comment l'usage des deepfakes s'est-il répandu en quelques années ?
Alors, l'extrait que vous avez passé, Natacha, il est extrêmement intéressant parce que ça date de 2017 et effectivement, l'humoriste devenu cinéaste Jordan Peele, américain, s'est associé à cette époque-là avec le média BuzzFeed pour diffuser une vidéo dans laquelle on voit Barack Obama. C'est Barack Obama et on entend son propos qui commence de façon très soft et puis rapidement ça commence à partir un peu en vrille et jusqu'au moment où il parle de Trump en des termes qu'on ne dit pas à France Culture quoi. Et à ce moment-là évidemment le spectateur il est déstabilisé mais l'image soudain se scinde en deux et on voit le visage de Jordan Peele et on comprend qu'on vient d'être témoin d'un deepfake d'un type particulier, on parle d'effet marionnette. C'est-à-dire qu'on est capable de transformer la vidéo réelle d'un individu, en l'occurrence Barack Obama, de façon à transformer le mouvement de ses lèvres, qui devient synchronisé avec un autre texte, un autre propos, en l'occurrence qui était dit par Jordan Peele. Les horreurs qu'on entend sont dites par Jordan Peele et pas par Barack Obama. Et Jordan Peele fait cette vidéo à dessein comme une alarme. Hein. Il prend un peu la position du lanceur d'alerte, hein, en l'occurrence, pour exposer aux yeux du monde et des utilisateurs de BuzzFeed qu'aujourd'hui, on ne peut plus croire le vieil adage selon lequel, justement, il faut le voir pour le croire. Ça, c'est fini. Les images sont devenues sujet de tromperie.
En effet, cette vidéo, vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, Olivier Lascar, comme du clou d'or pour les deepfakes. La vidéo a été vue plus de 10 millions de fois sur YouTube. Tina Nikuka, 2017, c'est le coup d'envoi des deepfakes.
Parce que justement avec cette vidéo-là, avec les émissions sur cette même chaîne, on avait commencé à en parler pas mal. Et c'est surtout le terme, je pense, deepfake qui a été utilisé. Mais tout ce qui est tromperie à travers des images ou des vidéos, c'est plus ancien que ça. Les photomontages, ça date de même l'ère avant le numérique. Donc on a toujours, l'humain a toujours voulu créer ce genre de faux pour des applications diverses. Mais de le faire de cette manière, on peut dire que oui.
Oui, puis comme vous dites, ces techniques ne datent pas d'hier. Il y a le photomontage, on peut aussi penser à Photoshop, Tina Nikuka. Même s'il n'y a pas dit A dans Photoshop, mais c'est de la modification d'image.
Alors, c'est intéressant de le dire. Si on parle de la modification d'image, il faut se dire qu'en fait, la création de la photographie, donc déjà en 1840, quand on était avec des photos argentiques, peut-être mois après, une des premières personnes qui a pris sa première photo s'est amusée à la falsifier elle-même. Donc, il faut vraiment voir ça comme, vous savez, quand vous développez une image, quand on développait auparavant des images argentiques, on passait d'un bac à un autre. Entre chaque étape, on pouvait s'amuser à essayer de gratter et enlever, par exemple, les imperfections sur la peau de quelqu'un pour le rendre plus beau, ou carrément, comme on a vu dans des images historiques, d'effacer une personne qu'on n'apprécie plus de photos de groupe. Ensuite, Photoshop, dans les années 90, si je ne me trompe pas, là, alors on n'appelle pas ça IA, mais ça reste, l'IA, c'est des mathématiques et de l'informatique. Là, c'était pareil, on est dans le monde digital cette fois-ci, donc c'est toujours des mathématiques et de l'informatique qui permettaient, de rajouter un objet extérieur à une image, d'effacer quelque chose au fond de l'image. Et depuis quelques années, maintenant, Photoshop, on peut faire de ce qu'on appelle plus couramment de l'IA et de l'IA générative, on peut rajouter quelque chose d'inventé dans une image qui, elle, est complètement naturelle, je dirais.
Patrick
Donc Bas, on peut faire ça.
Patrick Bas, pour compléter ce panel et cette définition, quand on parle de deepfake, finalement, on parle de quoi? On peut peut-être aussi définir certains termes qu'on croise, le lip sync ou encore le fast swipe.
Alors, effectivement, pour revenir sur la genèse de ces deepfakes, Tina a mentionné l'histoire des photomontages. Il faut aussi pas oublier que dans les années 90, il y avait aussi toutes les images de synthèse, des images qui étaient entièrement générés par ordinateur. Et maintenant, quand on entend deepfake, il y a aussi ça qui résonne. C'est-à-dire que maintenant, pour générer un deepfake, on a juste besoin d'entrer un petit bout de texte et puis l'image apparaît. Donc il y a aussi cet héritage-là avec des technologies, je pense qu'on va en reparler par la suite, les GAN, les modèles de diffusion. En 2022, on a vu quand même apparaître Midjourney, DALL-E, ces plateformes, ces logiciels qui permettaient de générer des deepfakes. Et ça a été quand même une forme de révolution parce que d'un seul coup, à partir d'une petite description, l'image apparaît. Donc il y a eu vraiment toutes ces choses-là. Après, sur la terminologie, pourquoi on appelle ça deepfake? Il y a le côté fake et puis le côté deep learning. On va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds pour pouvoir générer ces images.
Je reviens sur ma question aussi, sur le fast swipe et le lip sync à Olivier Lascar. En quoi ça consiste?
Alors le lip sync, c'est l'effet marionnette qu'on a décrit avec Obama et Jordan Peele. Le fast swipe, alors ça a un très grand succès sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent, qui sont un peu cinéphiles et qui se disent tiens, qu'est-ce que ça aurait donné Taxi Driver si à la place de De Niro on avait Pacino. Et aujourd'hui avec le face swapping, on peut extraire le visage de Pacino et le plaquer sur celui de De Niro dans un extrait tiré de Taxi Driver. Ça, cette technique, elle a été utilisée avec la tête de Nicolas Cage mise sur le corps d'Harrison Ford dans les Indiana Jones, par exemple. C'est une façon... Évidemment, on ne parle pas d'un simple copier-coller. Hein, le personnage final, on n'a pas l'impression qu'il porte un masque. Le nouveau visage, le visage de Pacino dans Taxi Driver, il joue la comédie. Hein, ses lèvres bougent, ses expressions évoluent selon la séquence et selon l'émotion de la scène. Et ça, c'est un système qui est permis par l'intelligence artificielle, qui permet de façon plutôt très simple maintenant, hein, de détecter dans une séquence source la tête de Pacino et de la plaquer dans une séquence de destination sur le corps de l'acteur de Taxi Driver.
Plaquer un visage sur un corps, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit dès l'apparition du terme deepfake en 2017 sur la plateforme Reddit. Tina Nikuka, hein, dès l'apparition, on voit du deepfake pornographique et c'est devenu aujourd'hui une arme de cyberharcèlement ciblée tout particulièrement vers les femmes.
Oui, alors c'est vrai que je suis d'accord avec les cas d'exemple d'acteurs. Hein, moi-même, on s'amuse toujours à essayer de mettre le visage d'un acteur sur nous pour montrer que cette science peut faire ça, etc. Mais effectivement, il y a des cas, des dérives. Pour typiquement le cas du face swap, ça peut être fait en temps réel. Ça, c'est important de le dire. Donc, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une conversation en visioconférence avec quelqu'un et il s'avère être... une fausse personne avec un faux visage. Par exemple, ça arrive très souvent, malheureusement en ce moment, des cas d'escroquerie sentimentale où, et souvent effectivement les femmes en sont victimes, où un homme vole l'identité de quelqu'un de beau, disons, qu'il trouve sur les réseaux sociaux, prend son identité et a des conversations de long terme avec quelqu'un, relations amoureuses qui mènent à demander de l'argent, etc. On a vu ça avec le faux Brad Pitt il y a quelques temps déjà. C'est pas forcément avec des célébrités, ça peut être fait avec quelqu'un qui est plaisant à regarder et qui pourrait plaire et donc mener à des arnaques sentimentales comme ça.
Oui, Patrick Bas, on a tout un panel d'usages de ces technologies. Hein, quelles sont justement pour continuer les dérives des deepfakes?
Alors là, on parle beaucoup effectivement du face swap où il y a aussi l'exemple en audio. Hein, on va prendre effectivement, comme vous le rappeliez Olivier, la voix de quelqu'un. Après, je pense que globalement, pour manipuler l'information, en fait, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. En fait, le domaine des possibles est énorme puisqu'on peut générer l'image qu'on veut. Et un collègue dans le milieu académique disait que l'approche sur l'appréhension d'une photo, la façon dont les gens maintenant observe une photo, elle a radicalement changé depuis que les deepfakes sont devenus populaires. Parce que cette personne-là avait le coutume de dire que maintenant, il faudrait pouvoir apprécier une photo comme au 19e siècle, on appréciait un tableau. Une photo, malheureusement, ça peut être une interprétation parce que ça peut être quelque chose de complètement artificiel.
Tina Nikuka.
Ah oui, je suis complètement d'accord avec cette image, cette analogie. Il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est très facile. Donc, vous donniez l'exemple de Barack Obama en 2017. C'était pas si facile, c'était pas en tout cas accessible à tous de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire donc, du lip-sync. On peut prendre une vidéo de soi ou de n'importe qui, la mettre dans des sites en ligne hein, qui existent, même gratuitement, et écrire un autre texte. Donc, faire dire quelque chose d'autre à quelqu'un. Alors, ça peut avoir des applications très agréables, comme par exemple, vous ne parlez pas telle ou telle langue, bah, vous pouvez traduire un cours que vous avez en visioconférence, par exemple, vous pouvez le traduire dans une autre langue et générer une vidéo où on vous voit en train de parler une autre langue à la perfection, sans accent, parfaitement bien. Ça peut aussi avoir d'autres cas, par exemple, vous avez juste eu le temps d'enregistrer une séquence de 5 minutes pour, je sais pas, un cours, vous êtes cours par exemple, vous êtes prof, et vous écrivez le texte des autres cours, vous n'avez pas le temps de les enregistrer, bah, vous les donnez à la machine, et là vous avez 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos qui sont générées de vous en train de donner ce cours.
Pour continuer sur les usages, parce qu'on va voir dans quelques instants comment on fabrique justement ces vidéos, pour les usages par rapport, bon, on l'a évoqué, fraude sentimentale, arnaque de patron, les deepfakes pornographiques, hein, qui représentent à peu près 96% de deepfakes, hein, qui représentent du contenu pornographique, il y a aussi des faux kidnappings d'enfants, puis cas d'école, Olivier Lascar, hein, la manipulation d'opinion et la désinformation politique.
Oui, alors là, il y a eu un exemple type en Slovaquie, à la fin de l'année 2023, hein, avec des élections législatives, et à 48 heures du scrutin, il y a un fichier audio qui est publié sur Facebook, et dans lequel on entend le leader du parti pro-européen discuter à bâton rompu avec une célèbre journaliste du pays de la façon dont le bourrage des urnes va être organisé pour voler le résultat de l'élection. Alors c'est un, ça ressemble à une conversation volée, quoi. Et publié à 48 heures du scrutin, ça a un effet bœuf. Et le jour de l'élection, c'est l'opposant pro-russe qui est élu. Le problème, évidemment, c'est qu'il s'agissait d'un deepfake, c'est-à-dire que les voix en question étaient des clones numériques et les personnalités en question n'avaient jamais dit ce qu'on les entendait dire. Malheureusement, vu le laps de temps entre le moment où ça a été publié et l'élection en elle-même, le travail de vérification, de débunkage, etc. n'avait pas eu le temps de se répandre. Et puis, quand bien même ce serait-il répandu, le ver de la suspicion était dans le fruit. Ce qui est intéressant aussi avec cet exemple, c'est que quand on entend le fichier, parce qu'on peut toujours l'écouter maintenant, hein, il est disponible sur Internet, on va entendre quelque chose qui n'est pas propre techniquement. Hein. Il y a des frottements, il y a du souffle, etc. Ça montre que le deepfake n'a pas besoin d'atteindre à une perfection formelle pour être efficace. Parce que ces défauts allaient dans le sens de la vraisemblance de la conversation volée. On imaginait que le smartphone était sous le coussin d'une chaise, etc. Quoi.
C'est ça, c'est que même un deepfake imparfait, ça a de l'effet. Et puis, ce qu'a montré aussi une équipe du MIT dans une étude parue dans Science en 2018, c'est que les fake news se propagent bien plus vite que les vraies informations. Alors, comment fonctionne le voice cloning? Comment fonctionnent les modèles d'IA génératifs qui produisent ces deepfakes? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Tina Nikoukar, Patrick Bas et Olivier Lascar, nous parlons de deepfake, des images, des vidéos, des audios qui ont été fabriqués par du deep learning, qui a l'apparence du vrai, mais qui ne l'est pas. Tina Nikoukar, on a toute une conjoncture de facteurs aujourd'hui qui a rendu ces outils de plus en plus accessibles.
Oui, que ce soit pour l'audio, la vidéo et l'image, la grande différence ces derniers mois, je dirais, ou ces dernières années, c'est que c'est accessible à tous. Aujourd'hui, je me permets de dire que n'importe qui peut créer une image de toute pièce. Donc, on écrit du texte et une image entièrement fausse qui est créée. Pour l'audio, je pense que c'est fait moins souvent. Mais c'est tout aussi possible. Hein. Il y a des sites en ligne qui nous permettent d'écrire du texte, de choisir la voix de quelqu'un. Donc, ça peut être la voix d'un acteur, par exemple, et d'obtenir un vocal, un enregistrement de cette voix-là. Et pour les vidéos, alors, on observe déjà des fausses vidéos d'humains, donc d'une personne qui est en train de parler, comme on a vu celle de Barack Obama, ou aujourd'hui, ça peut être de n'importe qui, de soi-même. Mais on s'approche aussi à avoir des vidéos entièrement fausses. Donc, on écrit du texte, de la même manière que pour l'image. On écrit du texte, et au lieu d'avoir une simple image, on a une vidéo animée, donc des images animées. Alors, pour l'instant, c'est pas encore parfait. Hein. On voit des incohérences. Par exemple, on voit, je sais pas, un chat qui rentre dans le mur, donc il y a des problèmes avec le monde physique. Mais je suis sûre que dans quelques mois, ça sera plus le cas.
Olivier Lascar, on assiste bien à une démocratisation de ces faux numériques.
Oui, alors, pour le dire à grands traits, ça vient de la conjonction de plusieurs éléments. Il y a d'une part le fait que la donnée, la data, est devenue terriblement accessible. Hein. C'est lié à la numérisation du monde et au développement d'Internet. Les bases de données peuvent circuler d'un bout à l'autre de la planète selon les besoins et les utilisateurs. Donc d'un côté, la donnée est disponible. De l'autre côté, il y a la puissance de calcul des microprocesseurs dits les GPU, hein, qui servent historiquement aux cartes graphiques. Cette puissance de calcul considérable permet de brasser de la donnée très très rapidement. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a eu le développement de cette façon de faire l'intelligence artificielle qui est le deep learning, avec toutes ces expressions qu'on entend de réseaux de neurones, par exemple, qui est une façon de coder. Hein. Alors, c'est pas des vrais neurones, hein, c'est pas de la vraie intelligence. Hein, c'est comme ça a été dit tout à l'heure, c'est des maths et c'est de l'informatique, mais c'est une façon de coder et qui permet aujourd'hui à des programmes de tirer en quelque sorte ses propres conclusions des données qu'on lui fournit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le deep learning, quand on fournit des images de chats, la machine, le logiciel est capable de savoir de lui-même les raisons pour lesquelles la nouvelle image qu'on lui fournit est bien celle d'un chat. On n'a pas besoin de programmer le fait qu'un chat a les oreilles pointues et des moustaches. La machine le déduit lui-même, elle-même, du monceau de données auquel on lui a donné accès.
Patrick Bas.
Je sais pas, est-ce que c'est peut-être le moment d'expliquer un petit peu comment justement on génère, parce que là, Olivier Lascar nous donne une très bonne transition pour... Donc si vous voulez, je peux rentrer un petit peu dans les détails très bien. Donc sur les méthodes de génération, il y a deux grandes familles. Il y a les méthodes qui sont le plus utilisées actuellement, qui sont ce qu'on appelle les modèles de diffusion. Alors pourquoi on appelle ça des modèles de diffusion? C'est un terme probabiliste. En fait, on a un processus de diffusion, c'est le fait de rajouter du bruit sur un objet, un contenu. Là, en l'occurrence, on va parler d'image. Et l'exemple du chat, c'est exactement l'exemple que je vais donner. Donc, comment ça...
Du bruit, c'est un peu comme quand on n'avait pas Canal+, et que l'image était toute brouillée,
c'est ça? Exactement. C'est l'exemple que j'allais vous donner, effectivement. Donc, pour ceux qui se souviennent, ou alors plus exactement, les télévisions hertziennes où on ne trouvait pas le canal, faut se souvenir, on avait une image qu'on appelait de neige, où il y avait des pixels qui avaient des valeurs aléatoires. D'accord? Donc, à partir de là, un modèle de diffusion, comment ça marche? Eh bien, on va faire entraîner une IA, une intelligence artificielle, à apprendre à enlever du bruit. C'est-à-dire qu'on va, pour reprendre l'exemple des chats, on va lui donner une classe d'images. Ça va être, par exemple, des millions d'images de chats. Et c'est important de dire qu'il en faut beaucoup, hein, parce que c'est le pouvoir des intelligences artificielles. Et puis, on va demander à l'intelligence artificielle de prédire une image de très bonne qualité à partir d'une image bruitée. D'accord? Donc ça, et c'est quelque chose qu'elle arrivera relativement bien à faire. Pour reprendre l'exemple d'Olivier, si elle voit une forme qui ressemble à un triangle pointu, l'IA, elle va très facilement deviner que c'est une oreille. Si elle voit une forme qui ressemble à une forme circulaire, elle va aussi pouvoir deviner qu'il va s'agir d'un œil. D'accord? Donc à partir de là, il y a un côté un peu magique, mais qui est pas si magique que ça, c'est que pour générer une image, eh bien, on va partir, vu que les IA ont appris à partir du bruit, enlever le bruit pour créer un chat, dans notre exemple, eh bien, on va générer un bruit, et il n'y a rien de plus facile que générer un bruit, il suffit de prendre une vieille télé hertzienne qui ne capte pas une chaîne pour avoir un bruit, et puis, on va demander à l'IA d'enlever le bruit, et ce faisant, l'IA, elle, va recréer un chat. Et pourquoi c'est très intéressant, c'est que maintenant, si on prend un autre bruit, eh ben, on va avoir un autre chat qui va avoir une couleur différente, une position différente. L'IA a appris à enlever du bruit pour pouvoir générer des chats.
C'est ça, Tina Nikuker, MyJourney, par exemple, ou les autres IA génératifs fonctionnent avec ces modèles de diffusion. Ce sont les IA les plus performantes en ce moment, enfin, en tout cas, pour créer des deepfakes.
En tout cas, à mon avis, quand on voit le résultat final, hein, là, c'est sur un point de vue qualitatif, tout à fait. On voit, alors, elles ont tous basé sur ce modèle de diffusion, mais il peut avoir des différences. Donc ça, on pourra en parler après quand on parle de détection, mais le principe est exactement ce que Patrick a très bien expliqué.
Alors, c'est plus trop d'actualité, Patrick Bas, mais ce qui a permis quand même la démocratisation des deepfakes, c'est aussi ce qu'on appelle donc les GAN, Generative Adversarial Networks, les réseaux antagonistes génératifs. Ça aussi, comment ça fonctionne?
Alors, justement, c'est la deuxième grande famille qui, historiquement, est arrivée en fait en 2014 avec la démocratisation du deep learning. Et c'est intéressant de parler de ces réseaux-là, même si, comme l'a dit Tina, ils sont beaucoup moins performants, on les utilise. Alors, on les combine actuellement quand même avec les modèles par diffusion, mais je vais vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Donc, dans Generative Adversarial Network, le mot important, c'est adversarial. En fait, dans cette IA-là, il y a une IA à l'intérieur qu'on appelle un adversaire. Et le rôle de cette IA, c'est d'essayer de faire la distinction, de détecter si une image a été générée ou pas. Et l'image qu'on entraîne, son objectif, c'est de combattre cet adversaire. C'est pour ça qu'on l'appelle un adversaire. Donc, en fait, c'est de générer des images dont l'IA adversaire ne sera pas capable de faire le distinguo entre une image générée ou une image normale. Et Alors, c'était les premières méthodes. On a réussi à générer des premières images. C'était déjà révolutionnaire à l'époque parce que c'était la première fois qu'on voyait apparaître des chats, des objets de toutes sortes. Pourquoi je vous en parle? Pourquoi c'est intéressant? Même si maintenant elles sont beaucoup moins, elles sont moins performantes. Alors, il y a déjà les chercheurs de chez Nvidia, l'entreprise qui fait beaucoup de GPU, qui combinent les deux, comme je l'ai dit, des adversaires et puis des modèles par diffusion. Mais c'est surtout que dans l'adversaire, on va parler juste après de détection. Possiblement, on pourrait mettre un détecteur de deepfake. Et si on arrive à construire un GAN qui arrive à combattre ce détecteur de deepfake, à un moment donné, on ne sait pas quand c'est ce que ça arrivait, mais il est fort probable que dans les années à venir, on arrive à générer des images qui ne seront plus détectables. C'est pour ça que je voulais parler de ça.
Les GAN, c'est donc Olivier Lascar, l'association de deux algorithmes qui fonctionnent ensemble. Il y a le maître et l'élève.
Oui, le maître et l'élève, c'est-à-dire que l'élève essaie de faire l'image de chat la plus convaincante possible et puis le maître regarde le résultat et lui dit « ben non, c'est pas un chat, je le vois parce que t'as oublié les moustaches ». Donc l'élève comprend la leçon et le coup d'après, il produit une image où il n'a pas oublié les moustaches. Et donc le prof a plus de difficultés à détecter le faux. Donc il y a une forme de cercle vertueux ou vicieux, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas d'émulation entre les deux, où on voit le maître avoir de plus en plus de mal à faire la part du vrai et du faux dans la production de l'élève, jusqu'à ce que on arrive à ces rendus photoréalistes qui font le deepfake.
Côté deepfake vocaux, Tina Nikuka, cloner une voix à partir d'un échantillon de parole de quelques secondes, ça, en quelques années, fabriquer ces deepfake vocaux, c'est devenu hyper facile.
Alors oui, je vais dire oui parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un saut, je dirais peut-être il y a 2 ou 3 ans. Avant, c'était pas de bonne qualité ou peut-être personne s'était vraiment penché là-dessus. Et d'un coup, c'est devenu vraiment crédible. En même temps, on s'attend peut-être à une qualité moins bonne quand on est au téléphone ou on voit pas la personne qu'une image. J'espère qu'aujourd'hui, si quelqu'un vous envoie une image en voulant vous prouver quelque chose et que vous recevez quelque chose qui est de très mauvaise qualité, donc vraiment, c'est petit, c'est pixelisé, on dirait des petits blocs un peu partout, c'est pas joli à regarder, vous allez douter, vous allez dire s'il te plaît, envoie-moi une meilleure qualité. Le son, j'ai l'impression qu'on a l'habitude de se dire ah, c'est pas grave, la personne est dans la rue, il y a du bruit de fond, etc. Donc j'ai l'impression que d'un coup, c'est faux, donc cloner la voix de quelqu'un, ça passe mieux, je vais dire en quelque sorte. Mais par contre, il y a toujours des choses à détecter, je dis pas ça pour faire peur, je dis juste que je pense qu'il y a le plus gros risque aujourd'hui, le plus crédible, c'est les deepfakes audio.
Et puis on a une rupture technologique qui a eu lieu avec la sortie du premier modèle neuronal qui peut générer de la parole quasi indiscernable de la parole humaine avec WaveNet, développé par DeepMind en 2016, Olivier Lascar.
Oui, il y a aussi les Français de Qtai qui sont sur ce secteur, c'est-à-dire que la voix, c'est de l'IA générative, mais à l'audio. Ce qui m'a été dit par les gens que j'ai discuté, avec lesquels j'ai discuté pour faire le livre, c'est qu'aujourd'hui, il faut moins d'une minute de la voix de quelqu'un pour créer le clone numérique. Ça devient, dans certaines activités, un business. Il y a une appli de méditation aux États-Unis qui a commercialisé à l'été dernier une histoire pour s'endormir qui est dite par la voix de James Stewart, acteur mort dans les années 80, si je me souviens bien. Et évidemment, histoire qu'il n'a jamais dite parce que sa voix a été reconstituée. Il y a un film avec Stallone qui vient de sortir en France. Enfin, en tout cas, la bande-annonce vient d'être diffusée sur les réseaux sociaux en France. On entend la voix du doubleur historique de Stallone, Alain Dorval, qui est mort il y a un an. C'est une voix qui a été reconstituée. Ça crée une vive émotion dans l'univers des doubleurs, qui sont à juste titre assez émus et vent debout contre ces technologies qui sont de nature à leur piquer leur boulot, quoi, pour parler clairement. Mais aujourd'hui, il faut presque rien de la voix de quelqu'un pour en faire un faux.
Patrick Bach, comment on génère, quelles sont les techniques pour générer de la parole ? Pour copier, pour faire ce voice cloning ?
Alors, peut-être que ça va être un petit peu technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les... typiquement, ces réseaux de neurones qu'on va utiliser pour générer la parole, ils ressemblent très bien. Ils ressemblent à des réseaux de neurones qu'on va utiliser pour compresser la parole, pour pouvoir la coder sous un format audio. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des... Alors on appelle ça des couches dans des réseaux de neurones. Il y a plusieurs couches de neurones et il y a des couches qui sont spécialisées dans le style. Donc c'est pas le contenu sémantique, ça va pas être les mots qui vont être importants, ça va être les termes techniques, ça va être le timbre de la voix, ça va être l'intonation, ça va être ces choses-là qui vont être codées en fait dans ces couches-là. Donc pour passer en fait d'une voix à l'autre, on va venir copier ces couches-là d'un modèle de voix qui a été appris sur quelqu'un à un modèle de voix qui a été pris sur une autre personne.
Et pour tout comprendre de la synthèse vocale, je vous invite à podcaster notre épisode consacré à la voix, l'hymne à la voix. Alors maintenant, comment repérer les images truquées, comment détecter le faux et protéger le vrai? Restez à l'écoute, on y vient. Everything is Fake de Gaspard Auger et Mister Oiseau en direct sur France Culture, car nous parlons des deepfakes en compagnie de nos trois invités du jour. Tina Nikuka, directrice de l'équipe de recherche de la start-up GetReal Labs, start-up qui lutte contre la propagation des deepfakes. Patrick Bas, directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille. Et Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences à Avenir. On vient de voir qu'avec les deepfakes, cette frontière entre le vrai et le faux devient plus floue. Avant de parler des méthodes de détection, Tina Nikuka, il faut parler de l'importance peut-être de l'éducation. Le plus important, c'est de parler, d'éduquer autour de ces images, surtout peut-être auprès des plus jeunes.
Tout à fait. L'éducation aux médias et à l'information, c'est vraiment quelque chose de nécessaire aujourd'hui, parce que les jeunes sont habitués à voir tout ce qui est information qui passe sur les réseaux sociaux ou à la télévision, d'entendre à la radio. Et encore plus que ça, c'est que contrairement à ce qui est écrit, écrit en général, il faut passer du temps pour lire quelque chose, alors que ce qui passe en image, surtout, on pense qu'un enfant, là je parle vraiment même des enfants qui, on pense, ne sont pas conscients de ce qui passe à la télévision, des informations, etc. On a vu qu'il y avait des enfants donc jeunes qui pouvaient passer à côté de la télévision, parce que dans le salon, la télévision est allumée, et ils vont voir des images qui sont complètement peut-être fausses, et ça va inconsciemment rentrer dans leur naturel. Par exemple, si on a l'habitude de montrer des chiens qui sont rouges, alors, autre qu'une bande dessinée, mais dans un film peut-être très réaliste, l'enfant, quand il va grandir, il ne sera pas posé la question, ça sera peut-être normal pour lui, un chien qui est rouge. Là, c'est dans un exemple, bien sûr, qui ne fait pas peur, mais je vous laisse imaginer tout autre type de contenu qui pourrait poser problème.
Olivier Lascar, comment, c'est des questions aussi qui nous concernent en tant que journaliste, comment donner aux plus jeunes des moyens de lutter contre cette menace de la désinformation ?
Alors c'est le chantier du 21e siècle, je crois, hein, parce que la question de la source, c'est quelque chose à laquelle les journalistes sont sensibilisés. En fait, il faut maintenant marteler auprès de tout le monde que c'est la question prioritaire. La source, c'est qui est l'émetteur. On entend encore parfois dans les conversations des gens dire, parler de quelque chose, je l'ai lu sur Google ou je l'ai lu sur Facebook. Ce sont des plateformes extraordinairement puissantes, voire hégémoniques, mais ce ne sont pas des sources, ce sont des passe-plats. Les sources, ce sont des médias organisés, comme les nôtres, qui travaillons les informations, les exposons, les développons, etc. Donc, ce rapport à l'émetteur, c'est devenu le sujet prioritaire. Et c'est vrai que les profs sont en première ligne, les malheureux, j'allais dire, parce qu'ils sont pas aidés, quoi. Il faudrait pouvoir les former. Je pense que l'intelligence artificielle est un sujet omniprésent aujourd'hui, mais qui fait tellement peur que certains ont peut-être la tentation de mettre la tête dans le sable en se disant « ça va passer, quoi ». Non, ça va sans doute pas passer, donc il vaut mieux mettre les mains dans le cambouis, dans tous ces outils, pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec, pour éprouver leurs capacités, peut-être leurs limites, mais en quelque sorte essayer de les apprivoiser, quoi. Et ça, c'est un travail que chacun d'entre nous, on doit mener individuellement en tant que parents, éducateurs, proches, etc. Parce que maintenant, il en va de notre rapport à la réalité et à la vérité, quoi.
Tinani Kouka, vous souhaitiez réagir?
Oui, je suis complètement d'accord. Juste, je voulais aussi préciser que ces jeunes-là, ce qui est vraiment le plus étonnant, parce que moi, je visite souvent des collèges et des lycées, donc j'échange avec ces jeunes, c'est que quand je leur montre des images et je leur dis « est-ce que vous croyez ?», ils vont dire « bah oui, c'est telle personne qui me l'a envoyé, j'ai confiance en cette personne ». Donc la source, ils reposent toujours, et c'est beau à voir, et tant mieux, hein, mais ils ont confiance en la personne qui leur a envoyé. Mais par contre, quand je leur dis « mais est-ce que vous pensez que cette image, par exemple, pourrait être complètement fausse ?», ils se posent pas la question. Alors que c'est les premières personnes à savoir créer des choses fausses. Ils sont très habiles avec Photoshop ou tout autre logiciel en ligne. Ils savent faire ça. Ce qui est peut-être différent d'un public plus âgé qui pourrait plus tomber dans le piège, je vais dire, parce qu'en fait, ils ne savaient même pas que c'était possible. Là, ces jeunes savent faire ce genre de faux, mais ont confiance parce que bah, là, c'est mon ami qui me l'a envoyé, donc il n'y a pas de raison qu'il ait fait ça pour une autre... Pour me faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Par contre, je voulais insister sur les sources. Alors, j'adore le métier de journaliste et je pense que c'est complètement complémentaire au mien, car les journalistes vont partir à la source de qui a créé ça, où ça a été posté la première fois, quel est le trajet finalement de cette audio, image ou vidéo. Et nous, scientifiques, on essaye de trouver une deuxième source. Donc, en général, en journalisme, je crois qu'on dit qu'il faut au moins deux sources pour vérifier quelque chose. Eh bien, nous, la deuxième source, elle est scientifique. C'est par où cette image est passée, plutôt dans le sens quelles opérations a subi cette image, d'où vient-elle. Je ne vais pas vous dire c'est telle personne qui l'a créée. Par contre, j'essaierai de vous dire si elle a été créée par Midjourney ou un autre logiciel, par exemple. Voici les deux sources.
Ouais, quelle opération a subi cette image? Tout ça, c'est presque de la science forensique, une sorte de médecine légale de l'image, Patrick Bach. Quelles sont justement ces méthodes et les méthodes les plus efficaces pour détecter ces deepfakes?
Alors effectivement, là encore, il y a deux grandes familles en fait de méthodes. Il y a les méthodes qu'on appelle passives et puis les méthodes qu'on appelle actives. Alors je vais très rapidement définir ces deux méthodes. Les méthodes passives sont communément appelées analyses forensiques et sont utilisées par les gendarmes, la police scientifique, les gens qui font l'investigation typiquement. Et elles consistent à analyser le contenu. Là, ici, on parle d'image et de l'analyser. Alors quand je dis on va l'analyser avec l'outil informatique, bien sûr, et on va essentiellement regarder ce qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'on va étudier les propriétés du bruit, en fait, qu'il y a dans l'image. Donc, je reviens toujours à ce bruit. Là, le bruit, on appelle ça un signal faible aussi, hein, comme en information, on a des signaux faibles. Là, pour le coup, c'est un signal avec une puissance très, très faible. Et on va regarder ses propriétés statistiques, où on va apprendre une IA, encore une fois, avec des exemples d'images qui sont, par exemple, générées. Alors là encore, on va parler de centaines de milliers d'exemples, et puis d'images qui sont naturelles, qui sortent d'appareils photo numériques normales, à faire le distinguo entre un bruit qui proviendrait d'une image générée et un bruit... Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on prend notre appareil photo, qu'on prend une image et puis qu'on va jusqu'à la diffuser sur Internet, il y a une trace, en fait, qui est propre à l'acquisition, en fait, de l'image. Et c'est la même chose pour les images générées. Donc c'est en travaillant sur ces traces qu'on arrive à faire la détection.
Tinani Kouka, vous souhaitiez réagir?
Oui, alors... Alors c'est purement mon sujet de travail, donc j'adore. C'est pour dire, je vais donner une analogie peut-être qui pour compléter ce que Patrick a dit. Il faut voir ça comme donc la médecine légale, effectivement, il faut voir comme une... Alors je dis image, mais audio-vidéo, ça serait la même chose. Il faut voir comme un cadavre, si je peux me permettre, ou un patient. Si vous êtes médecin, voilà, vous avez un patient qui vient devant vous et vous ne savez pas si quelque chose va mal ou va bien et vous voulez faire une suite d'examens. pour voir si cette personne est malade. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire est synthétique. Si elle est un peu malade, si elle a été éditée par exemple localement, elle a été retouchée, ou si elle est saine, elle est naturelle, on pourrait faire l'analogie comme ça. Et typiquement, l'analyse du bruit correspondrait à faire une prise de sang de cette personne et on aurait le sang naturel d'un humain normal et le sang d'un humain synthétique, disons le sang alien de cette personne, et on pourrait différencier comme ça. Mais on pourrait aussi faire d'autres choses, comme par exemple passer des examens comme un scanner, un IRM, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle les filtres forensique, souvent, quand on veut voir si une image a été retouchée localement, on peut appliquer ce genre de méthode d'imagerie et voir que, par exemple, ah, cet organe-là ressort très très fort, bah, en fait, cette partie de l'image a été retouchée, mais le reste est naturel, comme ce qu'a dit Patrick. Et pour continuer l'analogie et lui rendre la parole pour qu'il parle des méthodes actives, imaginez maintenant que le patient devant vous, il serait capable de parler, c'est-à-dire de vous dire « j'ai mal ici », j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite, et d'une manière vraiment sûre. On a vraiment la vidéo de ce qui s'est passé avant. Il est venu, il s'est fait mal à un match de foot, et on voit exactement ce qui s'est passé.
Je vous rends la parole, Patrick. Bah, quelles sont justement ces méthodes actives?
Merci Tina, effectivement, pour la belle transition. Les méthodes actives, c'est les méthodes où on va se permettre de modifier le signal, soit lorsqu'on fait l'acquisition, soit lorsqu'on fait la génération. Et on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de tatouage. Le signal de tatouage, ça va être un signal qui va être imperceptible et indélébile. Et c'est pour ça qu'on l'appelle de tatouage, parce qu'il est censé pouvoir résister à plein d'opérations. Et notamment, peut-être que dans le reportage qui va suivre là sur l'AFP, on va parler de tatouage, parce que l'AFP, typiquement, les journalistes de l'AFP utilisent des méthodes de tatouage lorsqu'ils prennent des photos pour pouvoir prouver que la photo a bien été prise par un journaliste. Donc, ces méthodes de tatouage, elles sont, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont très performantes pour pouvoir détecter. Alors, il suffit de détecter que le signal de tatouage est présent dans une image, par exemple, pour pouvoir prouver qu'elle a été prise par un photographe ou qu'elle a été générée.
Bah, le tatouage numérique, le watermarking, on en parle justement dans le reportage du jour, hein, puisque un des enjeux de la recherche aujourd'hui, c'est de détecter ces deepfakes. On continue d'en parler avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Détecter un contenu trompeur qui a été généré par une intelligence artificielle, c'est quelque chose donc, qui intéresse particulièrement le monde des médias. L'agence France Presse, l'AFP, s'est emparée du sujet. Elle dispose d'une cellule, le Media Lab, dans laquelle développeurs et journalistes travaillent main dans la main pour détecter les deepfakes.
Alors oui, tout à fait. Alors ils ont plusieurs techniques, effectivement. Je sais qu'ils développent à l'AFP des watermarking, donc ces tatouages numériques. Mais le principal outil qu'ils ont et dont on va parler ici s'appelle InVid. C'est un plugin. Et là, donc, c'est plutôt de la détection passive. Et donc, c'est une extension qu'on peut rajouter à son moteur de recherche. Il est accessible à tout le monde. Il permet de faire tout un tas de vérifications et notamment de détecter si une intelligence artificielle a été utilisée pour générer une image, une vidéo ou une bande son. Avec Denis Tessou, qui est responsable de ce Media Lab, nous nous sommes intéressés au deepfake audio en partant d'un exemple, une publicité vidéo trouvée sur Facebook qui utilise la voix du président de la République, Emmanuel Macron, pour faire la promotion d'une plateforme de crypto-monnaie frauduleuse. C'est la bande son que vous allez entendre dans quelques secondes. Les images de la vidéo, elles existent vraiment. Elles proviennent d'une ancienne publication prise sur les réseaux sociaux du chef de l'État. Mais le fichier son, lui, a entièrement été généré par intelligence artificielle.
Dans un mois seulement, chacun d'entre vous pourrait gagner plus de 3000 euros en suivant un processus simple et accessible à tous. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter une initiative unique, conçue pour offrir à chaque Français une opportunité de prospérer et de bâtir un avenir financier solide. Chaque participant a gagné plus de 3500 euros dès le premier mois. Quelques étapes simples suffisent. Inscrivez-vous, effectuez un petit investissement et commencez à percevoir des revenus réguliers dès le mois suivant.
Voilà, donc à l'appui de ce post qui vante les plateformes de Bitcoin, on voit une vidéo du chef de l'État. Tout ce qu'il dit, en fin de compte, provient d'un clonage de voix par l'IA. Donc si on extrait la voix et qu'on le teste avec nos outils, on voit bien que la voix est détectée à 99% comme étant une voix fabriqué par l'IA, donc fabriqué à partir d'un prompt, c'est-à-dire que c'est juste ce qu'on appelle du text-to-speech, du texte vers la voix, c'est-à-dire on écrit un message et on fait prononcer par une voix qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'Emmanuel Macron ce message en question à l'appui donc d'une soi-disant brillante opération financière d'investissement dans les crypto-monnaies et dans les bitcoins.
Pour arriver à détecter ce deepfake, le plugin Invid s'appuie sur des outils développés par des entreprises en cybersécurité pour authentifier les voix dans des centres d'appel, ce qui est utile pour les banques ou les assurances.
Eux, ce qu'ils cherchent, c'est authentifier la voix, c'est-à-dire dire est-ce que la voix est humaine ou pas. Et nous, on a pris leur outil à l'envers, d'une certaine façon, pour, au contraire, montrer qu'une voix n'est pas humaine et donc est faite par l'IA. Alors, on a fait beaucoup de tests, d'abord. On fait très attention dans notre plugin à éviter de publier des algorithmes qui peuvent avoir éventuellement des problèmes, des faux positifs notamment.
Est-ce que vous pourriez dire ce que c'est qu'un faux positif ?
Un faux positif, c'est tout simplement un vrai son, par exemple, dans ce cas-là, qui serait détecté comme étant fait avec de l'IA, alors que ça ne l'est pas. On fait très attention à ce que les modèles qu'on publie et qu'on donne accessibles à nos utilisateurs, qui sont des journalistes, des fact-checkers et des chercheurs qui travaillent sur la désinformation, de ne pas leur fournir des algorithmes qui peuvent les induire en erreur sur certains types de contenus.
Une fois qu'on a envoyé le fichier audio dans le plugin, on obtient un graphique avec un résultat pour chaque portion de 4 secondes d'audio. Ici, chacune des portions sont analysées comme ayant été générées par intelligence artificielle avec une certitude de 99%. Pour obtenir ce résultat, l'outil va chercher des indices laissés par les modèles d'intelligence artificielle au moment de la génération du son.
Tous les générateurs d'IA ont souvent des architectures relativement communes et les générateurs laissent des traces dans le traitement du signal, que ce soit de l'image, que ce soit du son.
C'est des traces qui sont laissées volontairement ou c'est involontaire ?
Non, c'est d'un point de vue technique, je dirais, c'est pas quelque chose qui a été... C'est pas une signature, c'est pas un watermarking, c'est quelque chose qui a été repéré. Et c'est donc ces traces-là qui vont être décelées dans le traitement du signal et qui vont permettre de les détecter. Ce qui change peut-être par rapport à l'image, une des problématiques de l'image, c'est qu'elle peut être copiée, elle peut être recadrée, elle peut être échantillonnée. Et donc elle peut subir beaucoup de modifications sur les réseaux sociaux, elle peut passer d'un réseau à un autre, être recompressée, etc. Pour les fichiers son, ils sont relativement plus stables. C'est sans doute ça aussi qui nous aide à les détecter de manière beaucoup plus franche et flagrante.
Ces traces dont vous parliez qui sont laissées par les architectures des intelligences artificielles, concrètement, ce sont des choses qui sont détectées, c'est des traces qui se voient dans la waveform, c'est ça ? C'est vraiment ça qui est analysé par vos intelligences artificielles de détection ?
Alors la waveform est une traduction, je dirais, graphique du traitement du signal, mais donc des fréquences du son. Là, en l'occurrence, c'est dans tout le traitement du signal que ils vont repérer des sortes de signatures qui sont laissées par l'outil qui aura été le dernier à processer le fichier, un peu comme on est capable de récupérer, par exemple, que telle ou telle image a été processée la dernière fois par Photoshop ou autre. Il y a toujours ce genre de traces qui peuvent, et c'est là que les spécialistes en forensique travaillent sur essayer de déceler les différentes traces qui permettent de remonter et de voir l'historique de l'image ou l'historique du son, comment il a été fabriqué.
Donc c'est des traces dans les données numériques même, en fait, du fichier.
Absolument, on est dans l'analyse mathématique du fichier numérique et d'essayer de récupérer les anomalies qu'il y aurait dans le traitement du signal. Et donc c'est pas du tout quelque chose qui est audible ou quelque chose qui est identifiable par une oreille humaine.
On va chercher dans les petits 1 et 0, qu'est-ce qui laisse des traces de cette architecture-là d'intelligence artificielle qui a généré le fichier.
Absolument, c'est vraiment la détection du signal dans le fichier binaire.
Ce genre de publication trompeuse qui reprend la voix d'une personnalité connue, c'est quelque chose que Denis Tessou voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et dans le cas particulier de ce deepfake, il est très difficile de communiquer dessus pour faire de la prévention par exemple, parce qu'il s'agit d'une publicité et pas d'une publication classique. Donc il n'y a pas de lien URL qui permette de le retrouver.
Depuis plusieurs mois maintenant, il y a beaucoup plus de deepfake audio avec des vidéos du passé sur lesquelles on rajoute une bande son complètement trafiquée. Et ça, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu un peu partout. On en a eu pas mal sur Elon Musk par exemple. C'est des nouvelles façons de falsifier le contenu qui malheureusement sont souvent accessibles sur le web parce qu'il y a beaucoup de générateurs. Et c'est important d'avoir des outils qui permettent de démasquer ça assez rapidement parce que la voix, finalement, quand on reconnaît la voix, on a plus tendance à croire ce qui est dit.
Est-ce que vous avez la crainte que à l'avenir, ce soit des choses qui deviennent vraiment très difficiles à détecter ou pas ? Parce que là, on voit que ça a été très facilement, a priori, détecté comme étant généré par de l'intelligence artificielle.
on est dans une course. Dans une course où on essaye de rattraper tous les nouveaux cas de falsification. Et donc, c'est une course du chat et de la souris en permanence. On voit de nouvelles formes de désinformation apparaître et on essaye de trouver des solutions pour essayer de les démystifier et de permettre à nos fact-checkers d'écrire des articles donc de vérification par rapport à ces contenus. Il faut rester humble dans ce genre de travail parce qu'on n'est pas à l'abri que des nouveaux modèles entraînés complètement différemment par d'autres types d'intelligence artificielle soient capables, à un moment donné, de passer sous le radar. Et donc, il faudra voir comment faire pour arriver à essayer de les détecter.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Tina Nikuka, pour prolonger ce qui vient d'être dit, on parle d'évolution technologique en moins de 10 ans depuis leur apparition. Jusqu'où peut aller ce genre de technologie ?
Alors je veux rajouter un petit peu à ce que Denis vient de dire, donc il a raison, il y a une grande partie qui est le jeu de chat de la souris, mais heureusement, donc je vais rassurer les auditeurs, il y a aussi des approches qui sont différentes dans le monde des approches passives qu'on a mentionnées, qui, on espère, on ne serait pas obligé de mettre à jour à chaque fois qu'il y a un nouveau générateur qui sort. Et sinon, en général, je voulais donc préciser que ce soit des vraies images ou des vrais sons ou faux, elles ont toutes une vie. Et c'est ça qu'il disait quand il disait que chaque opération ces images et ces audios subissent laisse des traces. Donc on a des traces qui sont censées être naturelles de la vie normale d'un contenu, comme celles qui sont non naturelles, qui viennent de cette vie artificielle. Et c'est ça qu'on cherche à analyser. Et oui, les vies vont être de plus en plus complexes. Les post-processing, donc si quand vous envoyez un son à quelqu'un, qui le renvoie à quelqu'un d'autre, etc., la vie va s'étendre, mais ça va toujours laisser des traces, et c'est ça qu'on cherche à détecter, en complémentaire, des approches qui ne regardent pas ça, mais qui regarderaient, par exemple, la physique de l'image, si les ombres sont cohérentes, la lumière est cohérente, si la perspective est cohérente. Dans le son, c'est pareil, si ça ressemble à un son naturel qui sort, enfin, qui a été enregistré une seule fois, ou par exemple un son qui sort d'un ordinateur, qui est ensuite enregistré dans un téléphone, etc. Donc il y a tout ce qui est environnemental, tout ce qui est physique qu'on peut rajouter pour essayer de détecter. Mais je vais aussi dire quelque chose de moins optimiste, c'est que là, dans l'exemple d'Emmanuel Macron, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si on arrive à avoir un imitateur de la voix d'Emmanuel Macron ? Donc, là, il n'y a rien de faux, on est d'accord, c'est un imitateur, donc un humain qui est capable d'imiter parfaitement bien Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, il faudrait faire de la biométrique, c'est-à-dire vraiment savoir si cette voix correspond à celle d'Emmanuel Macron. On pourrait authentifier la voix d'Emmanuel Macron. Et en règle générale, il faut aussi dire aux auditeurs de rester vigilants, de avoir conscience que tout ça, ça peut être faux, ça peut être truqué, et leur dire qu'il y a des méthodes, oui, mais surtout les éduquer.
On arrive à la fin de cette discussion. Comme on ne peut pas se satisfaire, donc comme on vient de le dire, hein, de tous ces outils de détection de faux, Olivier Lascar, quelles sont les législations qui se mettent en place ? Comment lutter justement contre la prolifération des deepfakes ?
Alors du côté de l'Europe, dont on sait qu'on est très fort sur les normes et les lois, il y a un dispositif intéressant qui s'appelle l'IA Act et qui a placé un certain nombre de règles, notamment disant que les contenus générés ou modifiés par l'intelligence artificielle devaient être stipulés comme tels, qui singularise l'usage des deepfakes porno pour aggraver l'acte délictueux dans le cas de cyberharcèlement. Hein. En Corée du Sud, c'est plus 500% en un an, hein, l'usage de deepfake porno pour harceler les femmes. Hein. Donc c'est un phénomène de société. Alors tout ce dispositif européen, il est quand même mis à mal par le moment politique que l'on vit, avec les États-Unis agressifs du côté des GAFAM, avec Zuckerberg et Musk qui soutiennent Trump. Donc il faut chérir cette initiative européenne, je crois.
Hein. En effet, l'Europe est en bonne voie pour légiférer sur ces technologies, mais Trump et Musk n'ont pas du tout l'ambition de réguler leur contenu. On est arrivé à la fin de cette discussion, mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se tourner vers votre ouvrage, Olivier Lascar, Deepfake, l'IA au service du faux, aux éditions Erol. Tout de suite, un tout autre sujet, on vous parle de la fonte des glaciers qui s'accélère, et notamment dans les Alpes et les Pyrénées. C'est la chronique avec science.
Comment les glaciers du monde se portent-ils? Ceux qui côtoient la montagne le savent bien, les glaciers disparaissent. Vous avez peut-être déjà vu ces images des glaces dont on pensait qu'elles étaient éternelles, qui au fil des ans se font toujours plus rares et qui découvrent petit à petit la roche. Les paysages changent et les géants blancs deviennent bruns. Cette mutation n'est pas sans conséquence, hein, puisque les glaciers sont des piliers écosystémiques à la fois pour la faune et pour les populations humaines. On peut les voir comme de véritables châteaux d'eau naturels. Ils stockent l'eau en hiver et alimentent les rivières en été lorsqu'ils fondent. À travers le monde, ils sont entre 200 et 300 000 et ils couvrent plus de 700 000 km². C'est plus que le territoire métropolitain français. Malheureusement, leur nombre décroît et leur taille s'amenuise. Alors, une collaboration internationale nommée Glambi fait le point sur cette disparition dans une publication parue dans Nature. Étienne Berthier est glaciologue CNRS à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Il est l'un des nombreux co-auteurs de cette publication.
On s'intéresse à l'évolution de l'ensemble des glaciers du globe. Dans cette définition, c'est tous les glaciers de montagne et puis tous les glaciers qu'on va trouver autour des régions polaires. Mais par contre, on exclut les deux grandes calottes polaires que sont la calotte polaire antarctique et la calotte polaire du Groenland. Et donc, on s'intéresse à l'ensemble de ces glaciers parce qu'ils répondent très vite aux évolutions climatiques, aux dérèglements climatiques. Donc, c'est un des meilleurs indicateurs. Ils rendent visible ce réchauffement qui est peut-être difficile à percevoir, mais le recul des glaciers, il est très facile à percevoir par tout un chacun. Ils sont aussi importants parce que même s'ils sont beaucoup plus petits que les deux calottes polaires Antarctique et Groenland, comme ils fondent très vite, ils contribuent à la hausse actuelle du niveau des mers qui est liée aux glaciers.
Le grand point fort de cette étude, c'est qu'elle a mis en relation 35 équipes à travers le monde qui ont réalisé un travail important de compilation et d'homogénéisation des données pour produire une estimation la plus robuste possible de la perte de masse des glaciers à travers le monde. Les chercheurs ont combiné des données de terrain avec des mesures satellitaires. Sur le terrain, ils ont suivi année après année l'évolution des couches de glace en mesurant la quantité accumulée en hiver et la part perdue en été par la fonte. Côté satellite à présent, les scientifiques ont utilisé trois méthodes. La gravimétrie d'abord, qui mesure les changements de masse, mais avec une faible résolution. Ensuite, l'altimétrie et enfin la construction de cartes topographiques très précises, un petit peu comme les cartes IGN, vous savez, que les randonneurs connaissent très bien. Ces deux dernières techniques, elles, mesurent la variation d'altitude des glaciers. Alors, quels sont leurs résultats? D'abord, les scientifiques estiment que les glaciers ont perdu en moyenne 273 milliards de tonnes de glace entre 2000 et 2023. Imaginez-vous le territoire de la France métropolitaine recouvert de 60 cm de glace qui fondrait chaque année et qui partirait dans les océans. Ça fait 5% du volume total des glaciers dans le monde. Cette perte touche absolument toute la planète, même certaines zones que l'on pensait épargner, comme l'ouest de la chaîne himalayenne. Pour revenir à une échelle plus locale, la France, elle, bat un triste record. Les Alpes et les Pyrénées sont la région du monde où la perte de glace est la plus forte, avec une baisse qui approche les 40% en 23 ans.
Les années 2022-2023 sont spécialement déficitaires, c'est les années les plus négatives de notre série. En 2023, la perte de masse de l'ensemble des glaciers du globe a atteint donc 550 milliards de tonnes par an. C'est deux fois plus que la moyenne sur l'ensemble de la perte de l'étude qui était de 2000 à 2023, donc une perte de masse extrêmement forte et qui fait que la contribution à la hausse du niveau de la mer des glaciers va en s'accélérant et c'est un des principaux facteurs d'explication de l'accroissement de la hausse du niveau de la mer, c'est cette fonte accrue des glaciers. Et ça montre aussi l'importance de continuer de les suivre au cours du temps.
La seule façon de résoudre cette crise, c'est bien sûr de faire chuter les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il y a le GIEC qui vient de se réunir en Chine pour préparer son prochain cycle. Et le type d'études dont on parle aujourd'hui, qui sont à la fois précises et globales, eh bien, elles sont essentielles puisque c'est le matériau sur lequel se fonderont les experts pour produire leur prochain rapport.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. Et un immense merci, un grand bravo à Ali Ruyer-Thompson pour la grande qualité de son travail. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.